I'm sipping wine, sip. In a robe, trip. I look too good, to be alone. Ooh. My house clean, my pool warm. Just shake, smooth like a newborn. We should be dancing, romancing in the East Wing and the West.
Bonjour à tous. Si ma voix ne vous est pas familière, c'est normal. Vous êtes toujours sur Radio Éthiopia. Je m'appelle Marine et les plus assidus d'entre vous se rappelleront de mes débuts ici, dans la chronique Le Pourquoi du Comment. C'est un plaisir d'être de retour parmi vous pour fêter nos 10 ans. Dans la suite de cette émission, nous parlerons histoire, éducation aux médias et à l'information, harcèlement, maths et études. Mais tout de suite, c'est Enzo qui va nous faire part de sa passion pour Napoléon dans la chronique Histoire.
Napoléon, cet homme qui part de rien et devient empereur des Français, roi d'Italie et protecteur de la Confédération du Rhin. Grâce à son génie militaire, il conquiert l'Europe tout entière juste en se défendant. 200 ans après sa mort, nous utilisons encore ses œuvres, comme le lycée, le bac, les universités ou encore son code civil. Ses multiples victoires sont à jamais célèbres, comme Austerlitz, Wagram ou encore Iéna. Sous l'Empire, la France a grandi considérablement. Elle compte 130 départements. de Barcelone à Amsterdam, de Brest à Rome. Il règne sur plus de 40 millions de sujets, possède l'armée la plus puissante d'Europe. Les soldats de sa vieille garde sont considérés par les historiens comme les plus valeureux soldats de l'histoire. Napoléon est l'un des rares personnages à prendre Moscou. Cependant, la retraite de Russie décimera la grande armée. Sur les 600 000 soldats qui franchissent le Niémen lors du début de la campagne, moins de 30 000 reviendront. Ils devront retourner en France sous une température de moins 40 degrés. Appelées à tort les guerres napoléoniennes, certaines batailles seront des plus sanglantes, comme le deuxième siège de Saragosse en Espagne, qui sera comparé à la bataille de Stalingrad. Napoléon, c'est aussi de véritables guerres éclairs. Ses troupes parcourent 60 km par jour. En 1806, il prend Berlin en seulement 2 semaines. La grande armée va à pied plus vite que les chars allemands en 40. À la bataille d'Eylau aura lieu la plus grande charge de cavalerie de tous les temps. Le maréchal Murat prend avec lui 12 000 cavaliers et charge les Russes. La charge est si puissante que les témoins racontent que c'était comme un tremblement de terre. À la suite de cette bataille qui sera sanglante, Napoléon restera une semaine entière pour aider à l'évacuation des blessés. Sur 90 batailles menées personnellement par l'empereur, il en perdra moins de 5, ce qui lui vaudra comme surnom le dieu de la guerre ou encore l'invincible. Napoléon devra abdiquer une première fois à Fontainebleau, où il fait ses adieux à la vieille garde. Le capitaine Cognet racontera dans ses mémoires que tous les grognards pleuraient. Cependant, Napoléon revient de son exil en 1815 lors des 100 jours, avec le vol de l'aigle. Il reconquiert le pouvoir sans verser une goutte de sang français. Malheureusement, le crépuscule de Waterloo sera l'inverse du soleil d'Austerlitz, où il perdra face à Wellington et Blücher le 18 juin 1815, et sera de nouveau exilé à Sainte-Hélène, où il y mourra. Lors de son exil, Napoléon dira à ceux au geôlier : « Vous entendrez crier « Vive l'Empereur » une dernière fois à Paris. » Bonne prévision, puisque lors du retour des cendres, 2 millions de Français l'accueilleront sur l'arc de triomphe qu'il avait commandé au lendemain d'Austerlitz, dont plusieurs soldats, malgré un hiver des plus rudes. Pour finir cette chronique, je ne dirai qu'une seule phrase. Vive la France et vive l'Empereur.
Merci Enzo, et merci aussi d'avoir condensé ta chronique, parce que je sais que tu avais beaucoup, beaucoup de choses à nous dire sur Napoléon et qu'il a fallu faire quelques concessions.
C'est exact.
Nous allons maintenant recevoir Virginie Boutor, coordinatrice académique du Clémy sur Aix-Marseille, ainsi que Christelle Lebriot, ici en tant que présidente de l'association des web reporters de Martigues. Ou alors on écoute de la musique. Alors, on va passer sur l'éducation aux médias et à l'information. Et pour les interviewer, Emma et Madame Grand sont prêtes.
Alors, nous accueillons à présent Virginie Boussor et Christelle Lebriot, qui font toutes deux parties, chacune à leur façon, de la création de la radio et de son évolution jusqu'à aujourd'hui. Christelle est la présidente de l'association des web reporters de Martigues, et Virginie Boutor, qui est la coordinatrice académique Clémy de l'Académie Aix-Marseille. Bonjour Christelle,
bonjour
Virginie.
Bonjour.
Alors Virginie, pourrais-tu tout d'abord nous expliquer ce qu'est le Clémy ?
Alors le Clémy, c'est le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information. Il a été créé il y a plus de 35 ans par un chercheur qui s'appelle Jacques Gonnet, et qui avait compris déjà à l'époque que les médias, le rapport aux médias, ça pouvait s'étudier en classe. Donc, cette intuition-là, bon, au début, il n'y avait pas le numérique. Hein. Il y avait déjà la radio, par contre. Et cette intuition-là était bonne, parce qu'on a vu, voilà, l'URSA. Typiquement, vous êtes des enfants de Jacques Gonnet, quelque part, aussi, et de ce qu'il a fait naître dans l'école, c'est-à-dire cette éducation aux médias et à l'information. Donc, voilà, toutes les web radios scolaires, il en a un petit peu la paternité. Et le Clémy a continué, contre vents et marées, à prospérer. Et en 2015, véritablement, suite aux attentats, aux différents attentats, on a eu, et notamment celui de Charlie Hebdo, on a eu l'entrée dans les programmes de l'éducation aux médias et à l'information véritablement étiquetée. Avant, c'était des recommandations, il n'y avait pas vraiment quelque chose. Si, c'était écrit, mais ce n'était pas aussi explicite. Là, c'est très explicite depuis 2015. Et depuis 2015, on a foison, pas encore, comme disaient les autres interviews, c'est vrai que on n'est pas encore, voilà, c'est pas encore quelque chose de généralisé, mais de plus en plus, on est sur quelque chose d'exponentiel au niveau de l'éducation, médias et l'information.
Et donc, est-ce que vous pourriez nous parler, tu pourrais nous parler des enjeux, des objectifs, des missions qu'a le CLEMI ?
Eh bien, déjà, en fait, la mission 1, c'est que les élèves apprennent. C'est souvent on l'oublie, on se cache derrière d'autres choses, mais en fait, c'est une façon pour vous d'apprendre, d'apprendre énormément de choses, quels que soient les contenus. Bon, voilà, j'étais pas tout à fait d'accord avec la chronique historique, mais il y a eu un très beau travail de fait sur l'histoire, on l'a vu là. Pour faire cette chronique, un élève, il est obligé de travailler les contenus. Après, l'aspect, travailler les contenus pour savoir s'exprimer à l'oral. Voilà, ça, c'est déjà l'objectif numéro un, c'est que vous appreniez. Et que vous appreniez aussi qu'est-ce que le monde médiatique, donc comment il fonctionne, etc. Et en plus, là, on voit, depuis l'entrée du numérique, véritablement, on va dire depuis le début des années 2000, il y a tout un pan énorme de ce que vous avez à apprendre. Tout le monde a un smartphone, à peu près, tout le monde a un smartphone dans sa poche. Donc, il y a énormément de choses à apprendre sur ces des petits ordinateurs, en fait. Vous pouvez filmer, vous pouvez capter le son, vous pouvez faire plein de choses. D'ailleurs, aujourd'hui, il devait y avoir un élève de la section audiovisuelle qui devait faire un live avec... Bon, il n'a pas pu être là, mais avec son propre smartphone. Donc, vous avez un rapport à ce matériel-là. Il faut aussi comprendre comment ça marche. Et pas seulement sur l'aspect technique. Il y a tout un aspect pédagogique. Par exemple... que deviennent nos données dans les smartphones. Ça, c'est de l'EMI. Ça, c'est de l'éducation aux médias à l'information. Voilà. D'ailleurs, je profite du moment pour vous dire qu'il y avait un très beau reportage, Élise Lucet, la semaine dernière, sur France Télévisions, je crois que c'est France 2, sur les données. Je vous invite à le regarder.
Donc, c'est vraiment quelque chose d'important pour vous que les élèves comprennent comment décrypter l'information, tout ça, surtout avec le numérique aujourd'hui.
Oui.
Est-ce que c'est quelque chose qui te tient à cœur, que c'est pour ça que tu es à ce poste aujourd'hui ?
Évidemment. C'est quelque chose qui me tient à cœur et c'est quelque chose qu'en tant qu'enseignante, j'ai expérimenté très vite. Parce que, bon, déjà, je l'ai vu que mes élèves apprenaient. Ils apprennent avec plaisir. Tout à l'heure, quand il y avait les professeurs de français, ce mot « plaisir » est revenu plusieurs fois. J'ai vu qu'ils apprenaient et ils apprenaient avec plaisir. Et ça, c'est une dimension indéniable de l'éducation aux médias et l'information, c'est-à-dire sur les mêmes contenus, par exemple en français, en histoire, en économie, n'importe quel contenu, le fait d'introduire le plaisir d'apprendre, c'est énorme et c'est pour ça que moi, dans mes pratiques, je l'ai tout de suite compris et apprécié pédagogiquement son importance.
Oui, c'est plus ludique et ça permet aux élèves de voir le travail différemment.
Oui.
Comment évolue le nombre de médias scolaires au sein de l'Académie Aix-Marseille ?
Eh bien, tous les ans, on a de plus en plus. Et nous, dans Aix-Marseille, on a des classes médias. Alors là, c'est des classes, on en a une quinzaine maintenant. C'est des établissements qui ont fait le choix d'avoir une option éducation, médias, l'information, comme vous avez l'option latin, comme vous avez une autre option. Et on a des élèves qui travaillent spécifiquement, donc c'est dans l'emploi du temps des élèves et des professeurs, qui travaillent spécifiquement l'éducation, médias et l'information dans leur emploi du temps. Donc ça, c'est quelque chose... Il y a quelques académies qui en ont aussi. Il y a Versailles, il y a Paris, il y a Orléans-Tours. Et Aix-Marseille, on en est très fiers. Et voilà, donc c'est en croissance, évidemment. On le voit aussi avec Mediatix, le concours des médias scolaires. D'ailleurs, je tiens à féliciter l'équipe d'Utopia qui a été primée cette année au concours académique.
Oui, et donc c'est... merci beaucoup. ces classes médias, c'est plus dans les collèges, dans les lycées ?
Il y a les deux. On va dire avec la réforme du lycée, on a eu plus de difficultés à le mettre en place au lycée. Mais il y a quand même des classes de lycée qui sont restées. Et plutôt collège, en fait, hein, quand même. C'est plutôt axé collège. Voilà.
Et donc, vous nous parliez des concours Mediatix. Il y en a d'autres organisés par le CLEMI ?
Il y en a plein d'autres. Il y a le concours pour l'égalité filles-garçons.
C'est zéro cliché.
Donc, c'est en ce moment. Je crois que ça va être rendu. Il y a le Wiki concours. Il y a, j'en oublie, hein, il y en a 7 en tout. Donc, tout au long de l'année... ça rythme en fait l'année scolaire, tous ces concours rythment l'année scolaire de façon diverse et variée.
Eh bien, merci beaucoup, Virginie.
Et j'ai oublié la semaine de la presse. Hein.
Alors, oui. Là,
ça,
oui,
c'est
oui.
L'énorme truc, vous savez. Toujours, on fait une petite référence à la semaine de la presse. La semaine de la presse qui, au mois de mars, a lieu tous les ans et qui est pour nous l'occasion de faire un peu le point. Et c'est là qu'on voit, je voulais le dire, encore cette année, on a encore eu une augmentation du nombre d'inscrits.
De participation.
De participation. Et la plus grosse participation qu'on ait jamais eue, c'est pendant le confinement 2020, en mars 2020. Alors, énorme.
Besoin de s'exprimer.
Un besoin de s'exprimer. L'éducation aux médias, l'information, ça a été une des façons de voir la continuité pédagogique. Et donc là, le CLIMI a fait le choix de laisser ouvert les inscriptions plus souples, en fait. Et énormément d'établissements se sont inscrits. Et on a eu énormément de demandes, énormément de sollicitations et plusieurs médias de collèges qui se sont créés au moment du confinement même, parce que c'était la façon de ne pas rompre les uns avec les autres, de garder ce lien,
bien sûr.
Et cette année, dans les coups de cœur de Mediatix académique, on retrouve des radios de confinement qui ont perduré. Voilà. Donc le collège Prévert, le lycée Schumann d'Avignon, qui ont toujours leur radio de confinement qui continue. Voilà.
Merci beaucoup, Virginie.
Plaisir.
Christelle.
Oui.
Pourrais-tu nous parler de ton association, les Web Reporters de Martigues?
Alors, elle a été créée en 2008. En fait, moi, à la base, j'ai commencé au collège aussi, un peu avant vous, par des clubs. Ça m'a plu, j'ai voulu poursuivre. Quand ça a été créé en 2008, j'avais 17 ans, donc je n'étais pas encore présidente. J'ai pris la présidence 2 ans après. Et en fait, c'était une volonté de plusieurs jeunes comme vous de poursuivre après la scolarité sur une radio associative. Donc on a créé cette web radio associative. Et en fait, naturellement, en collaboration avec le CLIMI, parce qu'on s'est rencontrés à l'époque, notamment au Salon de l'Orme sur Marseille, on a commencé à faire des interventions. Donc d'abord sur des événements ponctuels, comme le Salon de l'Orme. Et ensuite, sur de plus en plus des projets classes, etc. Alors, ça a démarré en premier lieu au lycée Jean Lursa, lorsqu'on a rencontré Marie-Laure, qui est là. C'est Marie-Laure qui est avec nous.
Bonjour. Oui, on s'est rencontrés aux Rencontres de l'Orme.
Aux Rencontres de l'Orme, tout à fait.
Puisque j'ai vu Christelle faire un plateau aux médias jeunes, avec à l'époque Odile Chenevé, qui était au CLIMI PACA. Et donc, je suis simplement allée discuter avec Christelle pour savoir comment elle travaillait. Et là, elle m'a annoncé qu'elle était sur Martigues. Donc, forcément, ça a fait tilt. Bingo.
Donc, en fait, notre assos, c'est de la web radio, mais c'était aussi de la web TV. On a fait beaucoup tout ce qui est festival de Martigues et compagnie. Et c'est devenu... En fait, c'était les anciennes associations qui initiaient les nouveaux. Donc, au début, sur du périscolaire. Et puis ensuite, ces anciens, enfin, les nouveaux, transmettaient aussi leur savoir, un peu comme vous avec Utopia, quoi. Et on a donc souhaité poursuivre ça sur les projets scolaires. Aujourd'hui, ça fait 12 ans que je fais ça. Et donc maintenant, j'interviens dans l'établissement scolaire pour poursuivre ce développement d'éducation aux médias, on va dire.
Et donc, tu interviens dans de nombreux établissements scolaires au sein de l'académie?
Nombreux, oui. Enfin, de plus en plus, comme disait justement... Virginie, il y a de plus en plus d'établissements qui cette volonté, notamment depuis Charlie Hebdo et les attentats de 2015, on a de plus en plus de demandes. Parce que vraiment, nous, notre rôle dans le développement des web radios et des médias scolaires, c'est justement de participer au développement de cet objectif d'avoir un média scolaire par établissement. Nous, on vient en tant que bénévole de l'association pour montrer qu'est-ce qui est possible d'être fait, avec des compétences techniques. On apporte aux professeurs et professeurs documentalistes qui ont des questions, et aux élèves aussi, des conseils techniques pour acheter du matériel. Donc, on va venir faire des interventions en collège et en lycée, donc de l'Académie d'Aix-Marseille, mais maintenant aussi, je s'est développé sur l'Académie de Montpellier. Donc, on apporte ces compétences pour dire, voilà ce que vous pouvez faire. On les aide au début, et après, le but, c'est qu'ils puissent faire tout seuls, quoi. Qu'ils puissent acheter de l'équipement et se débrouiller tout seuls.
Donc, c'est pour aider au développement des médias scolaires?
Principalement, oui, tout à fait.
Est-ce que c'est pas incroyable d'être sollicité pour participer à la création d'une web radio, donc ici Utopia, dans le lycée où tu as passé un petit complètement. Peu de scolarité.
Alors, ce qui est rigolo, c'est que, et je salue les professeurs qui m'ont eu en seconde et en début de première, c'est qu'en fait, je crois que je suis plus venue au lycée maintenant en tant que formatrice qu'à l'époque en tant qu'élève. Voilà, j'ai pas eu une très longue scolarité. En fait, j'ai repris après 20 ans mes études en communication et journalisme pour pouvoir continuer à faire ce que j'aimais. Mais en fait, j'ai été très vite dans des stages et dans des métiers liés à l'information. J'ai fait beaucoup, beaucoup de stages et j'ai repris après pour valider des diplômes, bien sûr.
Tu peux laisser. C'est vrai que quand on dit qu'il n'y a pas de hasard dans la vie, mais je t'ai quand même repérée à Marseille aux rencontres de l'Orme. Tu es à l'association Sciomartic et en plus, j'apprends après que tu étais élève au lycée Jean Lursa.
En fait, je crois que tu es arrivée l'année où je suis partie.
C'est quand même assez
incroyable.
J'ai voulu
la fuir au début.
Voilà. T'as pas pu, je t'ai rattrapée au vol.
C'est ça.
Et donc, tu as dit que tu n'étais pas venue beaucoup au lycée, mais tu faisais partie de l'option audiovisuelle, c'est ça ?
Oui, c'est ça. C'est aussi un des choix qui m'ont dirigée vers ce lycée, c'est qu'il y avait cette option-là. Et d'ailleurs, je crois que c'était un des seuls cours que je suivais assidûment.
Et s'il y avait déjà eu Utopia au lycée, est-ce que tu aurais participé ?
Certainement. Certainement, puisque déjà, comme je t'ai dit, au collège, déjà, je faisais des web TV, web radio. Donc, forcément que j'aurais voulu poursuivre. Quoi.
Et oui, tu aurais été l'animatrice.
Je ne sais pas.
Et donc, aujourd'hui, le 27 mai 2021, tu es interviewée pour les 10 ans d'Utopia. Et le 27 mai 2011, tu étais aux commandes avec Madame Grand lors de la première émission. Est-ce que tu pensais que ce projet irait aussi loin ?
C'est-à-dire qu'en fait, je ne me voyais pas avoir 30 ans déjà, donc ça fait mal. Ça déjà, c'est assez dur à encaisser, mais je suis contente. Oui, c'était sûr que la radio, elle avait du potentiel. En fait, quand on voit des professeurs documentalistes, et il y en a d'autres qui démarrent à peine maintenant, mais on sait qu'ils ont du potentiel parce que du moment où les professeurs sont impliqués, c'est les élèves aussi, mais les élèves tournent tous les 3 ans, ils changent s'il n'y a pas de redoublement. Non, c'est vrai que voilà, quand on a une équipe pédagogique qui est motivée, avec le soutien du Clémy, avec le soutien d'autres associations, il n'y a pas que la mienne qui existe, forcément, ça ne peut que marcher. Quoi.
Donc, c'est vraiment une fierté pour toi de voir ces projets aboutir, prendre vie, tout ça.
Je suis contente et je vous félicite aussi pour être arrivée là à 10 ans. Quoi.
Eh ben, merci beaucoup, Virginie et Christelle.
C'est moi.
Et à dans 10 ans.
On espère.
Merci. Merci Emma, merci Marie-Laure, merci Virginie, merci Christelle. Je vous propose maintenant une petite pause musicale en compagnie de Aurora avec Runaway.
I was listening to the ocean. I saw a face in the sand, but when I picked it up, then it vanished away from my hands. Done. I had a dream I was 7, climbing my way in a tree. I saw a piece of heaven waiting in patience for me. And I was running far away. Would I run off the world someday? Nobody knows, nobody knows. And I was dancing in the rain. I felt alive and I can't complain. But no, take me home where I belong. I can't take it anymore. I was painting a picture. Was a painting of you, and for a moment I thought you were happy, but then again it wasn't true. And all this time I have been lying, oh, lying in secret to myself. I've been putting sorrow on the forest place on my shelf. And take me home where I belong. I got no other.
kept running for a soft place to fall, and I kept running for a soft place to fall, and I kept running for a soft place to fall, and I kept running for a soft place to fall, and I was running far away. Would I run love the world someday? But no, take me home, take me home where I belong. I got no other place to go. No, take me home, take me home where I belong. I got no other place to go. No, take me home, home where I belong. Oh, no, 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 take me home, home where I belong. Oh, 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 no, take me home, home where I belong. Oh, no, 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 take me home, home where I belong. I can't take it anymore.
On se retrouve sur Radio Utopia avec Maxime et Marie pour un échange sur le harcèlement scolaire.
Bonjour Maxime et bienvenue sur la radio Utopia. Alors, tu étais scolarisée au lycée Lursa et tu es venue participer aujourd'hui aux 10 ans d'Utopia. Et si tu es là aujourd'hui, c'est pour surtout nous parler de quelque chose de difficile, ton harcèlement scolaire. Peux-tu nous en dire plus, comment ça a commencé et à quel moment ça a dégénéré ?
Bah, tout d'abord, bonjour, je suis content d'être ici. Et pour faire court, ça a commencé lors de ma sixième. Disons que j'étais un peu différent des autres et cela a fait que certains se sont acharnés sur moi en termes disant ouais, t'es gros, tu portes des lunettes, tu mets pas forcément des habits de marque. Donc ça a été assez marquant. Puis après, au fur et à mesure de l'année, ayant des notes un peu au-dessus de la moyenne, on m'a souvent traité d'intello.
D'accord, d'accord. Alors, comment est-ce que tu t'en es sorti ?
Par ma force de caractère, déjà de une, puis l'appui de ma famille qui a été un tremplin pour moi, qui m'a permis de me réveiller, de me percevoir que certes c'est quelque chose de compliqué, mais on peut y arriver en y mettant du sien et en laissant de côté ces idiots qui prennent un malin plaisir à rabaisser les gens.
D'accord. Et combien de temps ça a duré
Je dirais bien toutes mes années de collège.
Toutes tes années, d'accord. Et quand est-ce que ça s'est terminé ? À partir de la seconde ?
À partir de la seconde où, arrivé au lycée, c'était déjà plus mature. Donc, il n'y avait plus cette ambiance pipi-caca de collège où on met les gens de côté.
Mmh. Et qui t'a aidé à t'en sortir ?
Ma mère, mon père et mes frères et ma sœur. D'accord. Ça a été vraiment les piliers de cette renaissance, on va dire.
D'accord. Et est-ce que tu as trouvé une aide au collège ? Est-ce que des enseignants, des personnes de l'administration t'ont aidé dans cette épreuve, t'ont soutenu et ont fait en sorte que ça s'arrête ?
Oui, je dirais une surveillante qui m'a beaucoup aidé lors de mon année 5e, mais qui a été virée par la suite, qui m'a aidé pendant mon année 5e, qui a été l'année où j'étais le moins embêté.
D'accord. Et est-ce que les personnes, les harceleurs, du coup, ont été sanctionnés et ont réalisé la portée de leurs mots et de leurs gestes ?
J'espère qu'ils l'ont réalisé. Ils ont été sanctionnés. J'ai été porté plainte. Mon cas a été amené à l'Éducation nationale. À l'époque, c'était Najat Vallaud-Benkacem qui était ministre de l'Éducation. Je suis utilisé souvent comme un exemple, même si je n'aime pas dire ça, pour d'autres enfants qui puissent vivre cet harcèlement.
Oui. Et est-ce que tu as été, durant ton harcèlement, agressé physiquement ?
Physiquement, moralement, oui. Physiquement, moralement, ça allait jusqu'à devant chez moi. Ça a porté atteinte à ma famille, où une année, on a été même jusqu'à usurper la plaque d'immatriculation de mon père pour nous mettre amende sur amende. Voilà, après, ça a été aussi frappé, cabosser la voiture, jusqu'à aller me menacer sur les réseaux sociaux, oui. Mmh.
Est-ce que cette période, du coup, a vraiment marqué ta vie pour
Oui,
le
ma vie de 2018 ans, actuellement, oui. Après, je ne sais pas ce qui va être dans l'avenir.
Et ça va mieux maintenant ? Il n'y a plus, plus aucun problème ?
Alors d'aujourd'hui, j'ai quelques séquelles dues de ce harcèlement, puis d'autres soucis qui se sont rajoutés entre-temps. Mais j'essaie de garder la tête haute et toujours sourire, malgré que l'état de santé mentale n'y est pas.
Ouais. Et qu'est-ce que tu aurais envie de faire passer comme message aux harcelés et même aux harceleurs aujourd'hui ?
Ah, déjà, j'ai envie de dire à tout le monde qui puisse écouter cette émission ou même ceux qui sont présents sur ce plateau, on est tous concernés par le harcèlement, que ce soit au premier degré ou au second degré, parce que toute personne est mêlée inconsciemment lors d'un harcèlement, que ce soit en laissant quelqu'un de côté ou en lui faisant remarquer qu'admettons, il n'est pas bien comme s'il n'écoute pas, s'il ne fait pas ça. Ça, il faut éviter de le faire. Quelqu'un qui est isolé, vaut mieux aller lui parler parce que vous verrez, c'est souvent des personnes qui ont beaucoup à dire.
Ben, merci beaucoup, Maxime, pour ton témoignage. Merci beaucoup. Voilà.
Ouais.
Merci Marie, merci Maxime d'avoir pris le temps de répondre aux questions, d'avoir pris le courage aussi de venir parce que c'est pas facile comme témoignage. Et maintenant, on va poursuivre avec des mathématiques. C'est Axel qui, à défaut de questionner M. Loré sur son projet Mathéopolis, va nous le présenter.
Alors, bonjour à tous. Déjà, ça fait longtemps, ça fait bizarre de se retrouver ici après 2 ans sans radio. Alors, c'est une grande première pour moi. Vous ne rêvez pas, je vais vous parler d'un livre. Ce livre s'intitule Mathéopolis. Il a été écrit en collaboration par Monsieur Loré, qu'on ne présente plus ici, et Pierre Seguin, qui est un doctorant, professeur de lettres modernes en lycée. Il est l'auteur d'une dizaine d'ouvrages. Fabrice Lee, artiste graphiste 2 fois nominé au Festival international de la bande dessinée d'Angoulême, s'ajoute à ce duo pour s'occuper de nombreuses illustrations qui enrichissent l'ouvrage. Mathéopolis est une collection de romans illustrés qui vise à répondre à 3 questions essentielles. Qu'est-ce que les maths ? D'où viennent les maths ? Et à quoi servent les maths ?
Alors, il y a un fil rouge dans cette série de romans ?
Alors, effectivement, l'héroïne, Laurence Garnet, perd sa mère à 8 ans. 6 ans plus tard, son père disparaît lors d'une conférence scientifique. Laurence vit alors chez son grand-père, ancien pêcheur au panier à Marseille. Ses résultats scolaires sont en chute libre, mais un 24 octobre de l'année 2009, un banal problème sur Thalès lui ouvre les portes d'un monde insoupçonné. Son papé, comme elle l'appelle, lui montre les étranges carnets de voyage de son père. Elle se met à les étudier nuit et jour. Laurence acquiert peu à peu le même pouvoir que son père. Elle peut se projeter dans la cité des maths, Mathéopolis. Pour retrouver son père, elle n'a qu'à suivre ses traces à travers la cité et aux côtés d'êtres mystérieux, hors de l'espace et hors du temps. Pendant son périple, elle rencontre entre autres Fibonacci, Descartes, Leibniz ou Gödel. Dès lors, elle explose le programme de maths du collège et du lycée et, comme son père, devient l'une des meilleures mathématiciennes du monde.
Alors, ce projet, comment il est né ?
Alors, ce projet, il est né il y a plus de 20 ans, de la rencontre justement entre Francis Loré, que vous connaissez tous, et Pierre Seguin, et l'illustrateur Fabrice Lee, animés tous trois, d'un même désir, une forme de vocation, celle de retisser du lien entre les différents pans du savoir. Savoir, venant du latin sapere, qui signifie goûter, savourer. Or, pour comprendre comment un élément de connaissance a de la saveur, il faut reconstituer son parcours dans l'histoire, revivre la passion des hommes et des femmes qui ont forgé son contenu à des époques où les savants s'intéressaient en même temps à tous les pans de la connaissance. L'époque moderne a vu arriver la spécialisation des disciplines, certes nécessaires, mais le savoir s'est morcelé, atomisé même, au point que la communication entre les disciplines est devenue difficile. La connaissance est maintenant trop souvent réduite à un outil, voire comme les maths, réduit parfois à un simple instrument de sélection au détriment de tout son sens. Le parti pris de leur travail est de rendre un peu de son unité à la connaissance, qu'elle soit scientifique, historique, littéraire, musicale, artistique, sportive, et j'en passe. Avec comme cap la célèbre maxime de Rabelais, issue de son projet utopique d'homme de la Renaissance, que rien ne te soit inconnu.
Du coup, quand est-ce que ce projet a pris forme ?
Alors, Mathéopolis a réellement pris corps, donc c'est un projet qui date de 20 ans, mais il a réellement pris corps pendant cette année blanche où les rencontres physiques ont été très rares, sous la forme d'un projet associatif dans le cadre de Maths pour tous. Donc c'est une association marseillaise très dynamique, à l'image de son vice-président Laurent Bedou, que les habitués du Forum des Maths connaissent forcément. Paradoxalement, la situation sanitaire les a obligés à mettre de côté toutes leurs actions historiques, j'ai envie de dire, comme le fameux Forum des Maths, le congrès Maths en jean ou la Journée des Sciences. ils ont pu ainsi se consacrer pleinement à l'écriture et à la volonté de faire émerger ce projet enthousiasmant soutenu par les instituts de recherche sur enseignement des mathématiques de Lyon et de Marseille.
Et alors du coup, cette histoire qui se passe dans les romans, elle se déroule géographiquement, elle se déroule où ?
Alors justement, à travers ces romans, pour montrer le lien historique et géographique qui nous relie universellement, le scénario fera passer le lecteur par le monde babylonien, égyptien, grec, transita même par, je vous le donne en mille, Saint-Mittre les Remparts et Martigues. En effet, les instigateurs de ce projet cherchent à faire vivre le local, et ça marche, notamment avec la librairie L'Alinéa, qui a tout de suite accepté de soutenir le projet.
Et tout à l'heure, tu nous as parlé de figures qu'on rencontre au fil des cours de maths. Voilà, il y aura beaucoup de personnages familiers qu'on va retrouver dans le roman ?
Il y en aura quelques-uns, effectivement. Alors, tout au long de cette série de romans, l'héroïne va croiser le chemin de personnages bel et bien réels de notre région. Anciens élèves, professeurs passionnés, universitaires et chercheurs dévoués à la transmission de leur art. Pour ceux qui ont eu M. Laurent en cours, le nom de Dominique Barbolosi vous y est forcément familier. Et vous pourrez le retrouver au détour des pages du tome 0, mais je ne vous en dis pas plus. Laurence va vivre le bouillonnement intense et partager l'enthousiasme qui anime leur action collective dans le monde de diffusion des mathématiques depuis près de 3 décennies, avec pour leitmotiv du lien, toujours du lien. Enfin, je conclurai avec quelques mots sur le tome 0 que j'ai pu lire. Alors non, j'ai pas changé, je déteste toujours autant lire, pour ceux qui n'étaient pas encore au courant, mais ce livre de quasiment 200 pages se lit extrêmement facilement. Donc les très nombreuses illustrations de Fabrice Lee nous font vivre l'histoire au fil des pages, et pour le passionné de maths que je suis, ce livre fut passionnant. Cependant, je vous rassure tout de suite, pas besoin d'être excellent en maths, même pas besoin d'être bon en maths pour lire et comprendre ce livre. Pour ce tome et ceux d'après, les auteurs ont réellement à cœur de partager des mathématiques à la portée de n'importe qui. Alors si j'ai pu vous intriguer, voire même, soyons fous, convaincu de lire ce livre, je vous conseille d'aller faire un tour sur leur site internet, donc mathéopolis.fr. Vous y trouverez toutes les illustrations, plein d'infos sur le livre, ses auteurs, l'illustrateur, les associations qui soutiennent le projet, et vous pourrez même commander votre propre exemplaire.
Merci beaucoup, Axel, de nous avoir parlé de ce projet qui est, ma foi, très intéressant. Sans trop de transition, vous êtes peut-être en train de chercher une orientation pour la suite de vos études. Vous avez peut-être choisi la LEA et vous attendez impatiemment les résultats ce soir. Vous avez peut-être des questions. Pas de panique, Bastien, en L1 anglais-japonais, est là pour répondre à toutes vos interrogations.
Toutes. On se retrouve après 2 ans pour une nouvelle chronique, mais cette fois pas sur un livre, mais sur les études et sur mes études en particulier. Du coup, j'ai fini ma première année de LEA il y a un mois en quasi full distanciel et je voulais vous parler un peu de cette filière et de ce qu'elle m'avait apporté. Du coup, la LEA, c'est l'acronyme pour langue étrangère appliquée. Donc en LEA, on fait évidemment beaucoup de langue, vous vous en doutez. Du coup, ça se présente de cette manière. En gros, il y a une sorte de tronc commun à tous les LEA avec des domaines d'application et l'anglais comme première langue vivante obligatoire. Et ensuite, un choix d'une deuxième langue. Donc moi, par exemple, j'ai choisi le japonais, mais il y a aussi de l'espagnol, de l'allemand, de l'italien, du chinois, bref, tout un tas de panels de langues. Par contre, pour certaines deuxièmes langues, il faut évidemment avoir déjà un certain petit niveau, surtout dans les langues européennes ou les langues que l'on apprend à l'école, comme l'italien, l'allemand ou l'espagnol. Par exemple, je crois qu'en espagnol, il fallait avoir au minimum le niveau A2 ou quelque chose comme ça. Du coup, dans le tronc commun et dans les matières anglophones, on a plein de matières. Du coup, au premier semestre, par exemple, j'avais du droit, de l'économie, j'avais aussi de la MTU, donc c'est méthode de travail universitaire, où j'ai dû rédiger un dossier en groupe sur un sujet. Par exemple, nous, on avait choisi l'esclavage. En anglais, on a aussi de la civilisation, de la linguistique. Au deuxième semestre, j'avais de la gestion. Ça, c'était un peu compliqué, mais c'est de la gestion, c'est rigolo quand même. J'ai de la phonétique en anglais aussi, et du coup, plein d'autres matières diverses et variées. Et après, j'ai aussi des cours qui sont en rapport avec ma deuxième langue. Donc, par exemple, en japonais, j'avais des cours de grammaire japonaise, des cours d'exercice pratique, des cours d'écriture japonaise et des cours d'oral et des cours aussi de civilisation. Un point positif de la LEA, c'est qu'on n'est pas séparé par le choix de la deuxième langue. Par exemple, j'avais une amie qui était en LEA anglais-espagnol et on avait fait en sorte d'avoir tous nos cours en commun. Du coup, on avait tous nos cours d'anglais, tous nos cours d'économie, de droit ensemble. Sauf du coup, elle était toute seule en cours d'espagnol et moi tout seul en cours de japonais. Autre chose super bien, alors ça je pense que c'est principalement aussi fait, dû au fait qu'on est à la fac, c'est la fabrication de l'emploi du temps, parce que c'est nous qui les faisons. En fait, on a une liste de cours que l'on doit faire et après, chaque cours a un horaire et un prof différent et on fait son emploi du temps quand on veut. Et il arrivait des fois qu'on n'avait pas de choix, mais personnellement, j'avais juste un cours, j'avais pas de choix, donc c'était quand même assez libre. Sinon, les cours sont gentils pour la plupart. Les cours plus ou moins intéressants, après, j'avoue qu'avoir fait quasiment que des cours en distanciel, c'était pas très facile à suivre, mais on fait comme on peut. En plus, les partiels étaient à distance, donc c'était pas vraiment facile, mais on fait comme on peut aussi. Du coup, la LEA, c'est vraiment bien pour les gens comme moi, qui ne savent pas vraiment quoi faire, parce que c'est une filière assez large. Après, en deuxième année, on peut se spécialiser, mais ça, c'est pas obligatoire. Au niveau du travail personnel, c'est vrai que c'est complètement différent par rapport au lycée, parce qu'au lycée, on est quand même assez cadré. On a des devoirs, on a des contrôles, alors qu'à la fac, on n'a que les partiels une fois par semestre. Et les devoirs, c'est un peu... faites-les faites pas, c'est votre problème. Et sinon, j'avoue qu'avoir fait bachibac pour, au final, faire LEA anglais-japonais, c'était pas un choix très judicieux, mais c'est tout.
Alors, merci Bastien pour ces petits éclaircissements, pour ceux qui étaient peut-être inquiets pour leur première année en post-bac ou pour ceux qui hésitaient peut-être à prendre la LEA. Vous venez de faire un bond de 5 ans en arrière avec moi. Il est temps de stimuler un peu plus vos mémoires. Un retour de 5 ans supplémentaires en arrière. Les esprits les plus aiguisés auront deviné, on remonte de 10 ans en arrière avec Jimmy. Ce fut un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Je te passe le micro, Jimmy, après avoir écouté Humanoid de Nekfeu.
Déjà fait rabaisser par celle que t'aimais secrètement. Gentil en privé mais devant les gens cruels et légères. Est-ce que t'as déjà tapé quelqu'un juste pour qu'on te respecte sans excuse? Est-ce que t'as déjà regretté au point de bégère? Est-ce que tu t'es déjà dit faut que je me secoue, j'ai plus 16 ans. N'être plus qu'une âme perdue, errer, éroder des heures. Voir un mec se faire raqueter, appeler au secours et pisser le sang. Dans le même wagon du RER où t'étais seul. Est-ce que t'as détourné le regard, dégoûté face à ta propre lâcheté? Est-ce qu'après t'as fait des trucs de malade juste pour te racheter? Est-ce pour ça que t'as été violent quand la prof t'a acheté? Est-ce que tu t'es identifié au taf de court trajet, mais est-ce que tu gardais à l'époque des secrets de famille lourds dont tu peux même pas parler à tes potes? Même pas de balles pour un café, rêvais-tu de sauter la serveuse? L'été à Paris dans les parcs, tu sortais la serviette. Est-ce que t'as déjà ressenti l'ivresse en t'imaginant la tristesse de ceux qui te connaissent si tu te faisais sauter la cervelle? Est-ce que t'as déjà ressenti la nature au point que ça en soit douloureux? Aimerais-tu partir en souhaitant bonne chance à tous les refs? Est-ce que tu t'es déjà menti à toi-même? Est-ce que t'as été surpris quand on t'a dit on tient à toi mec? Est-ce que tu serais fidèle même terrifié avec un flingue sur la tempe? Est-ce que t'as honte de vérifier que t'es bien coiffé sur la toffe? As-tu déjà brisé de tes mains la vitrine dans un gamme? Victime du seum et du stress qui détruit nos organes en regardant goûter ton sang? T'es-tu déjà planqué pour recompter ta somme jusqu'à ce qu'un compte ait ta somme? Est-ce que tu te réveilles au milieu de la nuit? Encore une inspi en sachant que l'alcool et l'esplif abîment le corps et l'esprit. T'es-tu remis avec elle après qu'elle t'ait été infidèle? Est-ce que t'oublies que tu l'as détestée et t'as envie d'elle? Est-ce que pour ne pas la gifler t'as dû te battre contre l'instinct? T'es-tu juré que plus jamais tu perdrais le contrôle à ce point? Est-ce que t'étais comme vide quand ils t'ont annoncé? T'en es-tu voulu de ne pas pleurer sa mort? Est-ce que tu t'es forcé? Est-ce que c'est venu plus récemment pour un détail anodin? En point de chialer toute la nuit sur un vieux son de rap français. J'ai pas fait d'études, j'emmerde les politiques, j'ai pas fait HEC, j'ai pas besoin de ça pour m'exprimer quand je vois des pauvres sur la chaussée. Je connais les tafs de merde, les potes qui partent le shit dans la chaussette. Je me suis longtemps demandé si je pouvais faire quelque chose, mais là je sais, non j'ai pas fait l'ENA ni Sciences Po, j'ai pas fait HEC, j'ai pas besoin de ça pour m'exprimer quand je vois des pauvres sur la chaussée. Je connais les tafs de merde, les potes qui partent le shit dans la chaussette. Je me suis longtemps demandé. J'ai
viens d'un monde où même les morts sont à vendre. J'avance car l'avenir m'attire et je réponds aux questions du morceau d'avant par l'affirmative. Personne pourra alléger nos peines. Tu ferais quoi à notre place? Y'a des choses qu'on doit faire seul. Personne pourra lécher nos plaies. À notre place, parcourir la ville avec mes chats crevés. Partager chaque grain, noyer notre chagrin dans chaque revêt. Tremper jusqu'aux os sous l'averse. Déjà de gouttières dans cette puissance saveur. On cherche les goûts d'hier, alors le sang se verse. Elle attend son sauveur, ma princesse. Mais un jour je partirai sans affaire, attiré par l'essence inverse. Cette envie de bombarder quand tous les feux sont rouges. J'ai l'esprit daltonien. Toi tu fais le mal quand t'étales ton bien. Mes pensées enfermées dans une tolère métique. Un amour infini pour mes proches qui me pardonnent. Ceux qui tolèrent mes tics. Peu de respect pour les colères d'éthique. Elle vu que mon cœur a la couleur des tigres. Le sang glacial sous la polaire, je médite. Je te parle d'honneur, d'éthique. Nos parents ont souffert debout. Chaque victoire, ils sont fiers de nous. Pour ça qu'on leur dédie. J'ai la colère des petits à qui on demande de choisir d'un coup leur métier. Qui a conseillé la conseillère d'orientation? Ma jeunesse, son cœur est en sang. L'oseille est en rotation. Profiter sans faire attention. T'emmène en centre de rétention. Obligé de s'enterrer dans le son. Trouver une putain de raison. Vive. J'ai frappé dans les murs mais ça résonne vide. C'est pour les gosses à l'allure bizarre. Les voleurs, les éléphants man. Les mecs instables qui ont des putains de valeurs. Mais les défendent mal, humanoïdes. Entrer dans ce monde plat nous dessert. Je plane et se le désir, j'ai peur que de moi. Car le sage n'est pas de ceux qui craignent le sabre. Écrivain le soir, je rappe sur les dunes pendant des heures. Un petit grain de sable, la solitude m'inspire désert. Et j'entends tout ce rap dans mon crâne comme des mantras qui m'entravent. Et même quand on montra, y'a toujours quelque chose qui manquera. Tant que je continuerai à reculer pour compter mes pas. Le pire c'est de capter que c'est même pas qu'on s'aimait pas. C'est juste qu'on t'ignorait. Pire qu'un robot d'Azimov. Ta vie un casino, t'es quasiment en liberté. Enfermé dans des cases immenses. Une femme battue se fait carnage désincarné. Sans écarlate sur le carrelage. Moi je garde ça dans un carnet. Trop de moments en prison, fuis ce monde oppressant. Trop de moments précieux, vis le moment présent. J'emmerde l'horloger. Tu ferais mieux de réfléchir, famille de réfugiés, jamais relogé. Quand je parle de valeur, ils me parlent de premier prix. Ils méprisent la maîtrise, je maîtrise le mépris. En dépit de l'esprit, on est pris dans les cris. Seul face à mon reflet, aucune symétrie. Et puis j'ai rendu la seule qui m'aimaîtrise. Celle qui s'était déprise de maîtrise, de débris. Et mes regrets, mes tripes. Car j'ai vu depuis mes écrits la détruire, la déprime, la maigrir. Quand l'amour en aigrit, ça devient